Bon, donc moi, je n'ai pas la prétention de faire un cours d'économie. Donc en tant que cours, enfin, j'ai pas envie d'intervenir en tant que prof. Moi, mon ambition, c'est surtout de... Mon ambition, c'est de répondre à la demande qu'ont fait beaucoup de camarades, notamment lors de l'Assemblée extraordinaire, d'avoir enfin une formation marxiste, non pas seulement pour interpréter le monde, comme disait Marx, mais pour le transformer. Et ça fait effectivement de longues années qu'il n'y a plus... d'école, ni au niveau des sections, ni à d'autres niveaux. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement de partir de Marx lui-même, même si bien sûr l'objectif aujourd'hui n'est pas seulement de le répéter, mais de comprendre le monde d'aujourd'hui, le capitalisme aujourd'hui, pour armer pour les luttes et pour le dépasser, ce capitalisme. Mais donc l'objectif est véritablement de retourner au texte fondateur, avec le souci de revenir à certains concepts et surtout de revenir à une méthode d'analyse. Une méthode d'analyse qui en même temps permet d'armer pour les luttes. Alors je suis partie du capital et non pas de ce qui est plus facile peut-être, mais qui est quand même plus ou moins approché, c'est-à-dire salaire pris profit ou qui en général sont considérés comme plus faciles. Donc là, j'ai vraiment eu le souci de partir de l'œuvre majeure de Marx, Le Capital. Ensuite, j'ai voulu donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi partir des textes. C'est pourquoi vous avez et le cours lui-même, qui en fait c'est le cours que je faisais en première année d'AES à Paris 1. C'est-à-dire il n'y avait pas que ça, il y avait tous les autres auteurs, puisque c'était les grands courants de la pensée économique. Et ici, on verra les autres courants, mais avec le souci de savoir critiquer, quoi, de savoir, mais de les connaître, quoi. On développera pas, enfin, on va pas développer sur les autres auteurs, sauf s'il y a une demande. Pour Marx, on va puiser donc dans la théorie de Marx, mais avec vraiment le souci de, encore une fois, d'utiliser la méthode pour aujourd'hui et de comprendre le capitalisme d'aujourd'hui, et surtout de le dépasser. Alors, il y a un certain nombre de choses. Alors, je ne fais pas les autres œuvres de Marx, c'est-à-dire il y a les œuvres politiques, les œuvres philosophiques, c'est très très intéressant, mais moi je vais faire l'économie, même si c'est un tout, hein. Alors, ce que je veux aussi, c'est essayer d'enlever un certain nombre de lieux communs qu'a souvent développé ce qu'on appelle la vulgate marxiste. Bien retourner au texte. Alors les cours sur Marx se diviseront en plusieurs parties. Ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis je vais voir, peut-être que 3 heures c'est trop, enfin on va voir en fonction de comment on tient, quoi. Il y aura une partie cours, où bien sûr vous pouvez interrompre à tout moment. Il faudra aussi faire le tour des questions. Ça doit être partagé, quoi. Ça peut pas être magistral, il faut que ce soit partagé. Et d'autre part, il y a aussi l'aspect texte. Et donc là aussi, on verra ensemble que retenir, quoi. Donc, parce que c'est difficile, hein. Ça faut pas se, je sais pas si vous l'avez vu, enfin vous l'aviez peut-être déjà vu avant, mais en recevant par mail, évidemment c'est très difficile, mais rien n'est facile. Alors, donc, on va partir de... Je suis le plan du capital, hein, je ne ferai pas tout. Je suis le plan du capital. Effectivement, le capital commence et c'est quand même pas tellement connu. Commence par la marchandise. C'est-à-dire que les gens qui disent que il n'y a pas le marché chez Marx, donc c'est complètement faux parce que c'est le premier chapitre du Capital. Ça commence par la marchandise, le marché. Et la semaine prochaine, on verra, ça débouche, et à partir de la marchandise et du marché, il étudie ce qu'il appelle la production marchande simple. Et ensuite, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine, il passe à ce qu'il appelle la production marchande capitaliste. Ce qu'on appelle aussi, dans l'autre sens, le mode de production capitaliste. Et à l'intérieur de cette production marchande capitaliste, surtout ce qu'il étudie, c'est la force de travail. Et donc ça sera le deuxième cours. Le troisième cours qui sera en fait, je serai pas là, le jeudi 4 ou je sais plus, oui. Le 5. Donc on se reverra le jeudi 12. Quand on se retrouvera, donc la semaine prochaine on est là. Et le jeudi 12, on verra quelque chose qui est beaucoup moins connu encore chez Marx, qui est là le livre 3 du Capital, où là on parle, c'est là où il y a taux de profit, baisse du taux de profit, suraccumulation du capital. Et c'est ce livre, et qui, moi, à mon avis, enfin, c'est extrêmement important de connaître la force de travail, c'est décisif. Mais à mon avis, c'est le livre 3 du Capital qui permet d'étudier les crises, les contradictions. Je signale en passant, petite anecdote, que quand l'école normale supérieure était à Haut-Lieu du marxisme-léninisme, avec Althusser et ses disciples, il ne voulait absolument pas connaître le livre 3 du Capital. Donc, Althusser lui-même avait dit d'ailleurs que la seule chose qu'il avait étudiée, c'était la force de travail, et que d'ailleurs il l'avait étudiée sur des notes d'étudiants. Bon, c'est une petite anecdote. C'est chapitre 1, la marchandise. Donc, ce que vous avez au début. Donc, qui est le tout début du capital. Alors, première chose, ça correspond donc aux trois premières lignes. L'auteur nous dit « La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. » Donc, c'est la marchandise qui est la forme élémentaire de la richesse et qui est le point de départ de l'analyse de la production. Alors, pour bien étudier cette marchandise, on va d'abord étudier ce qu'on appelle, qui est central, c'est-à-dire la différence avec les auteurs sur lesquels on dira quelques mots après, c'est-à-dire les auteurs néoclassiques, libéraux, et la différence c'est que eux, enfin on le verra, ils étudient la marchandise et le marché, mais en fait ils restent sur le marché. C'est-à-dire que pour eux, le marché, avec la loi de l'offre et de la demande, c'est la règle, le nec plus ultra, c'est la règle, et ils n'étudient pas la production, et ils n'étudient pas ce qu'on appelle les rapports sociaux de la production. Alors que Marx, c'est le contraire, c'est dans la production qu'il faut aller, pour étudier les rapports sociaux. Et c'est les rapports sociaux qui l'intéressent, donc les rapports sociaux de la production marchande. Alors, première chose, il essaie de caractériser ce qu'on appelle la spécificité de la production marchande. Donc d'abord, il revient à des modes de production antérieurs, et notamment, donc il fait l'histoire, des modes de production, et il situe la production marchande par rapport aux modes de production antérieurs, et notamment par rapport à l'économie primitive. dans l'économie primitive, donc le but du producteur dans l'économie primitive, c'est directement de satisfaire ses besoins. Et en fait, par exemple, le chasseur chasse et devinez qui fait cuire le produit de la chasse. Et donc, il y a un échange. Il y a celui qui chasse, il y a celui qui pêche et on s'échange directement les travaux sans passer par la monnaie. On s'échange directement les travaux. Et les travaux des uns, on voit très bien comment les travaux des uns sont utiles aux travaux des autres. Alors que dans la production marchande, le but du producteur, ce n'est pas de satisfaire les besoins, le but du producteur, c'est l'échange. Et on verra que dans le capitalisme, c'est le profit, le but. Et ainsi, là, les produits dans la production marchande, les produits vont s'échanger entre eux contre de l'argent. Alors là, je n'ai pas pensé étudier la monnaie chez Marx. Il faudrait faire un détour. C'est vraiment assez complexe. Mais effectivement, il étudie, il voit comment on est passé du troc, par exemple, à l'échange contre de la monnaie. Et là, il met en avant, donc dans la production marchande, on a des produits qui s'échangent entre eux et contre de l'argent. Et c'est ce qu'on appelle le fétichisme des marchandises. Parce que finalement, on croit que c'est la marchandise en elle-même ou que c'est l'argent en lui-même qui est une valeur. Et on ne voit pas que derrière l'échange de produits, il y a l'échange de travaux. Alors, pour arriver à la production marchande, il faut étudier les conditions historiques que cela implique. Il faut voir que la production marchande, elle n'est pas éternelle. Elle n'a pas toujours existé et en fait, elle n'existera pas toujours dans d'autres modes de production supérieurs. Elle n'existera pas toujours. Et pour que ça existe, la production marchande, il faut donc des conditions historiques particulières. Alors il faut un certain niveau de développement de ce qu'on appelle les forces productives, donc un niveau de développement de la société. Il faut aussi une division du travail assez poussée, c'est-à-dire on a besoin des travaux les uns des autres. Hein, on ne peut pas effectuer toutes les tâches nécessaires à la société, donc on a besoin des travaux les uns des autres, et c'est ce qu'on appelle une division du travail. Alors ensuite, cette production marchande, elle ne reste pas figée et elle se développe, elle continue dans le mode de production capitaliste. Et même le mode de production capitaliste permet de développer, de donner son plein développement à la production marchande. Et dans un premier, dans ce qu'on a appelé le mode de production socialiste, en fait, donc là, il y avait d'ailleurs des débats, à ce moment-là, il y avait des débats. En réalité, la marchandise subsiste. On a cru qu'on pouvait supprimer le marché. En réalité, la marchandise, elle subsiste, mais sous des formes subordonnées. Et donc là, il y a tout ce débat là qui est extrêmement important. Moi, je me souviens, à une époque, on se passionnait, notamment sur la disparition de la monnaie. En fait, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple, quoi. Alors, la production marchande, elle implique aussi une certaine organisation de la production. Alors, c'est ce qu'on appelle, et donc on reverra tout à l'heure sur les textes, hein, pour bien suivre dans les textes. Il y a cette organisation de la production, c'est deux choses qui sont à la fois liées, que je remarque, c'est ce qu'on appelle la contradiction, la dialectique, c'est-à-dire c'est à la fois lié et opposé. Et donc, dans cette organisation de la production, il y a à la fois une séparation des producteurs, parce qu'ils produisent dans des unités de production séparées, et il y a une organisation juridique, qui est la propriété privée des moyens de production. Et à cette époque-là, c'est l'artisanat, ou l'agriculture, du petit producteur séparé, enfin c'est plutôt l'exemple de l'artisan. Donc une séparation des producteurs avec une propriété privée des moyens de production et aussi des produits à cette époque qu'ils fabriquent. Mais il y a aussi, le deuxième élément, une spécialisation des producteurs dans le cadre d'une division sociale du travail. Et donc, ça va aboutir à une contradiction. Les producteurs, donc c'est un peu comme l'artisan hein, dans ce sens-là, les producteurs sont à la fois indépendants les uns des autres, parce qu'ils sont séparés, parce qu'ils ils produisent dans des unités de production séparées, mais aussi ils sont dépendants les uns des autres, parce qu'ils ont besoin des travaux des autres. Et ils doivent vendre leurs marchandises sur le marché pour acheter les marchandises des autres producteurs dont ils ont besoin. Chacun ne produit qu'une petite partie des marchandises qui sont nécessaires à la reproduction de la société. Alors ça c'est, vous allez voir à chaque fois, il va y avoir des couples comme ça. Séparation, spécialisation, dépendant, indépendant, il va y avoir des couples comme ça, ce sont des couples dialectiques. Alors une autre contradiction va apparaître, c'est la contradiction, et donc ça c'est vraiment les gens qui disent ou bien, qui font des bilans, qui disent ça c'est positif, ça c'est négatif. Et donc c'est pas comme ça, c'est vraiment la dialectique, c'est pas ça. Il y a à la fois deux éléments qui sont à la fois séparés et en même temps unis et qui font le mouvement. Ça, alors la contradiction suivante, c'est travail privé, travail social. Et donc il y a une contradiction entre le caractère privé du travail et le caractère social du travail. Donc on peut dire aussi que le travail en lui-même est traversé par une contradiction entre travail privé et travail social. Alors le travail privé, en raison de la propriété privée des moyens de production et des produits, en raison de la séparation des producteurs dans des unités de production séparées, le travail est accompli sous des formes privées. C'est du travail privé, le travail de l'artisan, du forgeron, dans le cadre de son unité de production séparée. Mais en même temps, comme on est spécialisé, mais on a besoin des produits des autres, on a besoin des travaux accomplis par les autres, et donc chaque travail qui est accompli sous des formes privées, dans des unités de production séparées, est un maillon du travail social. C'est une pièce de la division sociale du travail. Alors maintenant la contradiction. Dans la production marchande, on produit, donc le but de la production marchande, c'est l'échange. et non, comme dans l'économie primitive, pour la satisfaction des besoins. Et donc, du fait, il y a donc des risques de discordance entre les produits fabriqués et les besoins réels. On ne s'occupe pas de savoir, quand on produit, on ne s'occupe pas de savoir si ça correspond à un besoin social. Mais le problème, s'il n'y a pas échange, si l'échange n'a pas lieu, eh bien le travail privé aura été effectué en vain. Il ne sera pas, comme on dit, légitimé comme un maillon du travail social. Et donc, l'échange, c'est dans l'échange qu'il a lieu, que se manifeste le caractère social du travail. Et c'est dans l'échange qu'il a lieu, dans cette production marchande simple, qu'on peut démontrer que le travail privé est utile à d'autres. Et donc l'échange permet momentanément, mais il permet, s'il a lieu, de résoudre la contradiction entre travail privé et travail social. D'où évidemment, on va voir qu'il faut développer les échanges et qu'il va y avoir, ça va être une, on verra après, à la fois une source de progrès, mais aussi une source de crise, et on verra pourquoi, notamment si l'échange ne peut pas s'effectuer. Donc on vient de voir ce qu'on appelle le double caractère du travail. Il y aura encore des doubles caractères du travail, mais à un autre niveau. On vient de voir le double caractère du travail entre travail privé et travail social. Et maintenant, on va aborder ce qui est dans le paragraphe 2 qui s'appelle la contradiction de la marchandise. Alors, là, il faut bien voir que par rapport à ce que peut-être vous avez lu dans d'autres œuvres de Marx ou avec les simplifications, ce qu'on appelle la vulgate marxiste, ça ne va pas être la même chose que ce que vous avez lu. Parce que le Capital est une œuvre beaucoup plus scientifique que genre salaire prix profit ou le manifeste, qui est davantage une œuvre politique. Alors cette contradiction, on dit qu'il y a une contradiction interne à la marchandise. La marchandise, elle recèle deux types de valeurs, qui elles aussi, on verra, elles sont unies et opposées. La marchandise est à la fois une valeur d'usage, on verra ce que c'est, et en même temps une valeur tout court. Et je ne dis pas valeur d'échange. D'habitude, vous avez vu que on dit toujours que la marchandise, elle est à la fois une valeur d'usage et une valeur d'échange. En fait, la contradiction, je vais l'expliquer, c'est entre valeur d'usage et valeur tout court. Et la valeur d'échange, c'est encore autre chose que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, vous remarquez aussi, quand je dis ça, que contrairement à ce qui est dit souvent, la théorie de Marx n'est pas seulement une théorie de la valeur travail. La théorie de la valeur travail, c'est d'autres auteurs avant Marx qui sont très importants, qui sont les auteurs classiques, notamment Smith et Ricardo. Et Marx, c'est pas une théorie de la valeur travail, c'est une théorie de la contradiction de la marchandise. Même s'il y a aussi le travail comme source de la valeur. Et donc, il y a des gens qui disent que aussi les auteurs contemporains, qu'on appelle des auteurs néoclassiques, eux au moins, ils étudient l'utilité. Marx aussi. Parce que ça, et donc, on dit Marx, le problème, c'est qu'il n'étudie que la théorie de la valeur travail. En réalité, c'est un des rares auteurs qui qui étudie la contradiction de la marchandise entre valeur d'usage et valeur. Alors, j'explique ça, la valeur d'usage. Une marchandise, donc, a une valeur d'usage. Pour pouvoir être échangée, elle doit correspondre à un besoin social. Elle a une utilité pour celui qui l'achète, c'est-à-dire une aptitude à correspondre à un besoin social. Et en tant que valeur d'usage, les marchandises sont toutes de qualités différentes. Une toile particulière, un vase spécifique, etc. Donc elles sont toutes de qualités différentes. Alors qu'est-ce qui détermine cette utilité ? Elle est déterminée par les propriétés du corps de la marchandise. Genre, c'est un vase bleu, qui est vraiment très spécifique. Et les valeurs d'usage, elles ne se réalisent, c'est-à-dire on voit que c'est des valeurs d'usage, elles ne se réalisent que dans l'usage ou dans la consommation. La même chose. C'est-à-dire là, vraiment, quand vous utilisez, vous prenez du pain, c'est parce que le pain a été échangé et que donc vous le consommez que vous pouvez vérifier que c'est une valeur d'usage. Et donc ces valeurs d'usage, on verra aussi concrètes, ces valeurs d'usage concrètes forment la valeur de la matière, excusez-moi, de la richesse. Alors maintenant, la valeur tout court. Qu'est-ce qui permet à des marchandises qui sont toutes de qualité différente en tant que valeur d'usage ? Elles sont toutes différentes. Qu'est-ce qui permet de les échanger les unes contre les autres ? Et donc Marx recherche ce quelque chose de commun à toutes les marchandises qui permet l'échange. Alors pour ça, il est obligé de mettre de côté, de faire abstraction de la valeur d'usage. Il ne s'occupe plus de la valeur d'usage. Et s'interroge sur ce que les marchandises recèlent en commun. Et donc, elles recèlent toutes ce qu'on appelle une valeur. Alors, quelle est la substance de cette valeur ? Eh bien, c'est le travail. Quelque chose de commun qui permet l'échange, c'est le travail. Les marchandises, en tant que valeur, sont toutes un produit du travail humain. Et donc la valeur des marchandises, elle représente le travail de l'homme, comme on dit, elle représente une dépense. Donc il y aura quelques expressions à savoir, quoi. C'est une dépense de force humaine en général, ce qu'on appelle le travail en général. Une dépense de force humaine. Alors maintenant, on aborde une autre contradiction liée à celle-ci, c'est-à-dire liée à la contradiction valeur d'usage-valeur. C'est la contradiction, ce qu'on appelle le double caractère du travail présenté par la marchandise. Et donc il y a aussi une contradiction. Le travail est à la fois du travail concret, on dit aussi du travail utile. Donc le travail est à la fois du travail concret et du travail abstrait. Alors, du travail concret, c'est un travail particulier qui correspond à une activité bien précise. Et qui donne à la marchandise ses qualités concrètes, son utilité particulière. Et donc ce travail concret renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure, à la valeur d'usage de la marchandise et au travail privé. Par exemple, du forgeron ou du tisserand. Donc, on se souvient que le travail concret, c'est le travail spécifique qui permet de créer telle valeur d'usage qui est forcément différente. Alors maintenant, le travail abstrait, ça renvoie, en fait, celui-ci, il renvoie à la valeur que nous avons vu tout à l'heure. Le travail abstrait, c'est le travail en général qui fait abstraction du caractère particulier de la marchandise. Et donc, qui permet de dégager le quelque chose de commun à toutes les marchandises, c'est-à-dire d'être le fruit du travail humain. Et donc, ça renvoie bien à ce qu'on a vu tout à l'heure, et qu'on va développer un petit peu, la substance de la valeur, qui est donc d'être une dépense de force humaine. Donc maintenant, on va préciser ce qu'on appelle substance de la valeur et ce qu'on appelle mesure de la valeur. Substance de la valeur, c'est donc le travail abstrait, le travail en général. Et donc, c'est une dépense de force humaine. Donc c'est le quelque chose de commun à toutes les marchandises qui leur permet de s'échanger, même si elles sont toutes différentes. Alors maintenant la mesure de la valeur ou grandeur de la valeur. Comment des marchandises de valeurs d'usage différentes s'échangent les unes contre les autres? Eh bien, elles s'échangent en fonction de la quantité de travail qu'elles contiennent. Et donc, on va trouver ici une notion qu'on retrouvera plus tard, la grandeur, la mesure de la valeur d'une marchandise, ça équivaut à ce qu'on appelle le temps de travail socialement nécessaire, temps de travail socialement nécessaire à sa production. Temps de travail socialement nécessaire à sa production. Alors, socialement nécessaire, c'est moyenne, hein. Ça veut dire dans des conditions historiques et sociales données. C'est pas la même chose à toutes les époques, c'est pas la même chose dans tous les pays, donc c'est lié à des conditions historiques et sociales particulières. Avec un degré moyen donc d'habileté, d'intensité du travail. Donc voilà, il faut poser. Il faut bien voir aussi, c'est ça qui va être plus compliqué, que ce qu'on appelle les progrès de la productivité, en liaison avec le progrès technique, la force de travail qui devient plus qualifiée. Donc en fait, on va diminuer avec les progrès de la productivité du travail, on va mettre moins de temps pour fabriquer les marchandises. On va donc avoir une diminution du temps de travail socialement nécessaire. Et donc, c'est ça qui est assez paradoxal, on développera ce point, plus la société se développe, plus la valeur, si c'est la même marchandise, évidemment, elle va baisser. Et c'est pas parce qu'on est moins développé, c'est parce qu'on l'est plus. Par exemple, si vous prenez l'exemple des composants électroniques, il y a eu une baisse absolument incroyable du temps pour les fabriquer, y compris avec une énorme économie de temps et de matières premières. Donc ça c'est un facteur le développement de la société, les progrès de la productivité du travail vont finalement faire baisser le temps de travail socialement nécessaire pour une même marchandise et donc faire baisser la valeur. Ça qu'il faut bien voir, c'est si on comprend pas très bien, parce que quand on dit la valeur baisse, on croit que c'est pas bien quoi, alors que c'est le résultat du progrès. Alors, les progrès de la productivité vont entraîner à un bout une diminution du temps de travail socialement nécessaire, ça veut dire socialement nécessaire à la production d'une marchandise, hein, c'est ça que ça veut dire, mais en même temps, vous voyez toujours la contradiction. Les choses ne sont pas A ou B, il peut y avoir une lutte entre A et B, la contradiction. C'est que le progrès technique, il va aussi appeler une élévation de la qualification, la formation. Et du coup, on va avoir ce qu'on appelle un travail complexe. Et ce travail complexe, il est ce qu'on appelle un multiple du travail simple. Hein, si vous prenez dans des industries comme l'aéronautique, ou si vous prenez... parce qu'il y a des gens qui disent, avec le progrès technique, en fait, on va sans arrêt baisser les salaires. Parce qu'il faudra moins de temps pour... Mais en réalité, il y a l'autre aspect. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un appel très très fort à la formation, à de la qualification, et donc évidemment, ce qu'on appelle du travail complexe. Le travail complexe, c'est, comme on dit, un multiple du travail simple. Bon, on reviendra tout à l'heure, on reviendra et sur les textes qui peuvent illustrer ça, qui nous permettent ensuite de revenir au cours lui-même et avec toutes vos questions. Alors, dernier point de ce premier cours, la valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est une forme d'expression. Ça, c'est un terme qui revient souvent chez Marx. Une forme d'expression de la contradiction entre la valeur et la valeur d'usage. Donc la valeur d'échange, on ne peut pas, faut pas confondre la valeur d'échange et la valeur. C'est encore un autre niveau. Alors, première idée, on va revenir à la contradiction de la marchandise et au rôle de l'échange. Le but du producteur dans une production marchande simple. Production marchande simple, ça peut correspondre à la fin du Moyen Âge. On n'est pas encore dans le capitalisme. Vous voyez, alors le but du producteur, c'est de réaliser sur le marché la valeur de la marchandise. Donc il a produit dans des unités de production séparées, il veut aller, et son but c'est l'échange. Donc il veut aller sur le marché pour réaliser, c'est une expression aussi qui revient souvent, la valeur de la marchandise. Donc il a besoin de l'échange. Il produit pour l'échange. Il ne produit pas pour avec l'idée qu'il va satisfaire les besoins des autres. Mais, d'un autre côté, il doit trouver, donc c'est ça la contradiction aussi, d'un autre côté, il doit trouver un acquéreur pour sa marchandise. Et donc, celle-ci, pour qu'il trouve un acquéreur, elle doit correspondre à un besoin social. Elle doit avoir une valeur d'usage pour celui qui l'achète. Une valeur d'usage pour celui qui l'achète, il faut que ça lui soit utile, il faut que ça corresponde à un besoin. Mais alors du coup, si l'échange n'a pas lieu, parce qu'on ne s'est pas occupé des besoins et que le producteur n'arrive pas à vendre, si l'échange n'a pas lieu, le caractère utile socialement de la marchandise, du travail, ne va pas être vérifié, ne va pas être légitimé. Et donc le travail, si l'échange n'a pas lieu, le travail aura été effectué en vain. Donc, l'échange permet d'affirmer, s'il a lieu, permet d'affirmer le caractère utile socialement du travail. Et donc, à un moment donné, l'échange, s'il a lieu, il résout la contradiction de la marchandise entre valeur et valeur d'usage. Mais on verra que, en même temps, si je verrai dans le dernier point, il y a aussi au contraire des risques de rupture, des risques de crise où on n'arrive pas à écouler la marchandise. Alors maintenant, la valeur d'échange. Comme on l'a dit, il faut bien que vous voyez que la valeur elle-même, la valeur d'une marchandise, sa substance, n'apparaît pas à la surface des choses. On ne la voit jamais, la valeur. Et ce qui apparaît sur le marché, c'est la valeur d'échange. Donc, la valeur d'échange, c'est une forme d'expression de la valeur. C'est, donc il y a tous ces termes-là qui reviennent souvent, c'est une manifestation de la valeur. Et en fait, on va voir que la valeur d'échange, en réalité, elle va tourner autour de la valeur. Elle peut être, ce qu'il y a aussi, elle peut être inférieure à la valeur, elle peut être supérieure à la valeur au cas où, enfin, on est obligé de reprendre, même s'il faut la dépasser, cette loi de l'offre et de la demande, il faut évidemment la dépasser, mais effectivement, si ça correspond à un besoin social et que donc c'est demandé, bah un peu comme ça se passe en ce moment avec le riz, cette spéculation là sur les matières premières qui fait que l'offre est rationnée même volontairement d'ailleurs. Hein. Et donc du coup à ce moment-là, la valeur d'échange elle va monter au-dessus de la valeur. Et il y a au contraire des cas où quand il y aura des surproductions, où ça va s'effondrer au-dessous de la valeur. Donc la valeur d'échange, elle tourne, on dit qu'elle tourne autour de la valeur. Elle la reflète, la valeur, mais elle tourne autour de la valeur. Alors finalement, cette valeur d'échange, comment on peut la mesurer? Parce que celle-là, on est bien obligé d'avoir une mesure, d'avoir un rapport d'équivalence, hein, pour savoir comment on va échanger le blé contre le vin, par exemple. Il faut bien trouver un rapport d'équivalence. Et donc, comment on fait comment on va se fixer ce rapport d'équivalence entre deux marchandises? Eh bien, ça va se... Donc, il y a deux marchandises de valeur d'usage différentes et une valeur d'échange qui va se fixer. Et donc, c'est régulé par les temps de travail contenus dans la fabrication de ces marchandises. Donc, en gros, c'est le rapport entre le temps de travail pour fabriquer le pain et le temps de travail pour fabriquer le vin. Et en fait, dans la réalité, cette valeur d'échange, qui donc est relative, elle fluctue, cette valeur d'échange, en fait, quand on utilise la monnaie pour les échanges, eh bien, cette valeur d'échange, en fait, elle s'appelle un prix. Quand c'est la monnaie qui permet, qui sert, comme on dit, d'équivalent général à tous les échanges, eh bien la valeur d'échange, ça devient le prix. Et donc le prix, c'est l'expression monétaire de la valeur d'échange. Et il y a bien sûr, puisque la valeur d'échange, elle est relative, il y a bien sûr des possibilités d'écart entre la valeur tout court et la valeur d'échange. Et quand c'est avec l'argent comme équivalent général, des possibilités d'écart entre la valeur tout court et le prix. Dernier point, la valeur d'échange est donc là vous allez retrouver la contradiction avec cette méthode dialectique, la contradiction qui est extrêmement importante. Donc la valeur d'échange est à la fois l'expression, mais aussi la tentative de solution de la contradiction fondamentale de la marchandise entre valeur et valeur d'usage. lorsqu'il y a échange. Cette contradiction, valeur d'usage, valeur, est momentanément résolue. Même chose entre travail privé et travail social. Et donc, dans ce cas-là, les caractères utiles socialement des travaux privés s'affirment. Et on peut vérifier que chaque travail privé est bien essentiel à l'ensemble du travail social. Alors évidemment, à partir de là, ça pousse à développer les échanges, à les élargir. Et donc, ça va développer le rôle de la monnaie, du crédit, etc. Donc, c'est à la fois source de progrès dans le sens d'élargissement des échanges, développement de la monnaie et du crédit, mais aussi source de crise. Parce que en même temps, cela engendre des risques d'aggravation. Dans un premier temps, ça résout, mais dans un deuxième temps, ça pousse au contraire les risques d'aggravation de la contradiction. La nécessité d'élargir les échanges va inciter les producteurs à des progrès de la productivité dans la production. C'est-à-dire pour pouvoir, puisqu'il y a des possibilités d'échange, ils vont développer les progrès de la productivité du travail. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils vont avoir tendance à mettre trop de marchandises sur le marché. Et ils ne s'occupent pas des débouchés. Ils ne s'occupent pas de savoir si ça correspond effectivement à un besoin social. Et donc il y a un risque que la marchandise ne trouve pas preneur. On va à la fois avoir plus de valeur d'usage sur le marché, on va des marchandises toutes de qualité différente, on en met plus sur le marché. Mais en même temps, pour chaque marchandise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa valeur va diminuer. À cause des progrès de la productivité. Donc une nouvelle contradiction, on aura plus de valeur d'usage, mais une valeur pour chaque marchandise qui va diminuer le temps de travail, parce que le temps de travail nécessaire à la production de cette marchandise va diminuer. Et donc la valeur d'échange, là, elle va s'effondrer sur le marché, elle va passer au-dessous de la valeur. Donc le travail privé ne sera plus vérifié comme utile socialement. Et ça va mener à des destructions de marchandises donc à des crises. Donc vous voyez la marchandise à la fois la production marchande, à la fois source de progrès, mais aussi de crise. Et donc on voit bien comment les mouvements de la valeur d'échange reflètent, traduisent la contradiction de la marchandise entre sa valeur et sa valeur d'usage. Voilà, donc moi je vous propose, on a deux méthodes. Soit on prend les textes, on va faire tout en même temps, on va faire tout, mais je ne sais pas dans quel ordre. Prendre les textes pour essayer de retrouver ce qu'on a dit là. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est uniquement à partir des textes, mais bon, c'est vrai que j'ai essayé de donner une présentation synthétique. Et donc, on peut soit commencer par les questions et les débats, quoi. Soit commencer par les textes de Marx lui-même, en sachant que de toute façon, on fera les deux. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous...
On va commencer par les textes.
Oui, on va commencer par les textes. Alors, pour cette séance, en fait, ça va jusqu'à la page 7. C'est pareil, la marchandise. Alors, on a... Chapitre 1, donc ça c'est la marchandise, les livres, le capital est là d'ailleurs, c'est très bien de faire des petits stages avec il y a aussi cette présentation là. Donc il y a d'abord la marchandise, c'est le chapitre 1, et donc pour ce qui est numéroté, je ne sais pas comment ça va. Il y a le double caractère du travail. Donc pour cette séance-là, ça va jusqu'à la page 7. Après, la fois d'après, on ira de... Donc on faudra... C'est photocopié la deuxième séance, la force de travail, c'est bon. Il faudra ensuite... photocopier la troisième séance, c'est-à-dire sur taux de profit, etc., enfin, pour la séance d'après. Et là, je crois que Marina a tout fait, en fait. Hein. Donc, dans ces photocopies des textes, alors, il faudra, la semaine d'après, on étudiera tout ce qui concerne la force de travail. Et encore la semaine d'après, on étudiera donc, parce que là, c'est le livre 1 du Capital. Alors, il y a aussi un livre 2 qui s'appelle La reproduction. C'est un peu compliqué, la reproduction simple, la reproduction élargie. Donc, ça, je ne l'ai pas fait. Et le livre 3 du Capital qui porte sur la tendance à la baisse du taux de profit, la suraccumulation, les crises. Et tout le monde les a, les textes? Oui. Tu la veux ou... Ah, elles sont là. Vous les avez? Éventuellement, on en fera retirer. Alors, ce qui est... C'est une méthode aussi de travail, de lecture des textes. La difficulté, c'est évidemment d'arriver à trouver l'essentiel dans des textes qui sont extrêmement difficiles et donc, évidemment, de ne pas se noyer. Alors, donc, moi, ce que j'ai retenu, on va le voir ensemble. Donc, ce que j'ai retenu, c'est Donc on est dans la contradiction de la marchandise. Donc ça va nous amener à substance de la valeur, grandeur de la valeur, et on aura valeur d'usage, valeur et valeur d'échange. Tout ce qu'on a vu ici. Alors les trois premières lignes, donc c'est ce que j'avais dit au début. Donc la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. Donc ensuite, il essaie de caractériser la marchandise et j'ai retenu le paragraphe qui commence par l'utilité d'une chose. 4e paragraphe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le reste, mais j'essayais de... Donc l'utilité d'une chose, c'est de cette chose une valeur d'usage. Donc la notion de valeur d'usage. Qui va donc être caractérisée par les propriétés du corps de la marchandise, et donc fer, froment, diamant, etc. Et là, donc, en tant que valeur d'usage, les marchandises sont toutes de qualité différente. Et alors ensuite, ces valeurs d'usage, elles ne se réalisent que dans l'usage ou la consommation, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et elles forment la matière de la richesse. Ils sont les soutiens matériels de la valeur d'échange. Donc voilà la valeur d'usage, donc ça apparaît comme éminemment divers. Alors, au début, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'au début, il parle de la valeur d'échange comme rapport quantitatif, comme une proportion dans laquelle les valeurs d'usage différentes s'échangent les unes contre les autres. Et un rapport, donc, qui change constamment avec le temps et le lieu. Et donc, cette valeur d'échange est quelque chose d'arbitraire et de purement relatif. Et c'est pourquoi il va chercher une valeur d'échange intrinsèque, immanente à la marchandise. Et donc, c'est ça qu'il va étudier et c'est ce qu'on appellera, là ça ne sera pas relatif, c'est ce qu'on appellera la valeur. Et donc là, il s'interroge, que signifie par exemple la possibilité d'échanger une quantité de fer, par exemple un kilogramme de fer contre un quarteron de froment, comment c'est possible? Comment c'est possible que deux objets aussi différents puissent s'échanger entre eux? Et donc, c'est là qu'il recherche le quelque chose de commun. Et donc, ce quelque chose de commun, donc ça j'en suis à la page 2, et donc il va découvrir que ce quelque chose de commun, qui permet à des marchandises qui sont toutes de qualité différente. Et pour comprendre ce quelque chose de commun, eh bien, il faut faire, comme on dit, abstraction de la valeur d'usage des marchandises. C'est-à-dire qu'il faut les mettre de côté, il faut mettre de côté, il faut plus s'occuper de la valeur d'usage des marchandises. Et donc, alors au début, effectivement, il va progressivement arriver à cette notion de valeur en étant obligé de passer par la valeur d'échange qui est de marchandises de qualité différente qui ont un rapport quantitatif entre elles. Donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun ces marchandises alors que pourtant elles sont toutes différentes? Qu'est-ce qu'elles ont en commun qui permet l'échange entre elles? Eh bien, il leur reste ce qu'elles ont en commun, c'est ce qu'on appelle la substance de la valeur, ce quelque chose de commun qui permet l'échange, eh bien, c'est d'être des produits du travail. Donc, c'est le paragraphe du milieu, là. Ce n'est plus par exemple une table ou une maison ou du fil ou un objet utile quelconque. Ce n'est pas non plus le travail particulier qu'on appelle le travail privé du tourneur, du maçon. Ces caractères particuliers vont disparaître et il ne reste donc plus, si on met de côté toutes ces formes concrètes, il ne reste donc plus que le caractère commun de ces travaux. Ils sont tous ramenés au même travail humain, à une dépense de force humaine, de travail, une force de travail humaine qui est dépensée. Et donc, toutes ces valeurs d'usage différentes, eh bien, on peut leur quelque chose de commun, c'est de contenir une force de travail humaine, une dépense de travail humain. Et donc, l'avant-dernier paragraphe, le quelque chose de commun qui se montre dans le rapport d'échange, donc qui se montre dans le rapport d'échange ou dans la valeur d'échange des marchandises et par conséquent leur valeur. Et une valeur d'usage n'a de valeur qu'autant que du travail humain est matérialisé en lui. C'est un article quelconque, n'a de valeur qu'autant que du travail humain est matérialisé en lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la substance de la valeur, de quelque chose de commun. Alors il y a toujours aussi ces expressions, c'est qui se montre dans la valeur d'échange, ou qui s'exprime dans la valeur d'échange, ou qui se réalise dans la valeur d'échange. Ça se montre, mais la substance, c'est la valeur tout court. C'est-à-dire, c'est d'être un produit du travail humain. Du travail humain qui est matérialisé qui est donc la substance de la valeur. Alors maintenant, comment mesurer la grandeur de la valeur? Donc il y a la substance qui est de contenir du travail, d'être une force de travail humain qui a été dépensée. Et maintenant, il y a la mesure de la valeur ou la grandeur de la valeur. Donc c'est la grandeur de la mesure de la valeur d'une marchandise, c'est la quantité de travail, c'est le temps de travail socialement nécessaire à sa production. Substance, mesure. Temps, alors la page d'après, page 3, temps socialement nécessaire à la production des marchandises. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, celui qui exige, donc c'est le paragraphe 2, celui qui exige tout travail exécuté avec un degré moyen d'habileté et d'intensité dans des conditions, hein, il faut que ce soit des conditions moyennes et qui va varier, bien sûr, ce temps de travail socialement nécessaire. Est relatif à une époque, est relatif à un pays, c'est pas évidemment partout pareil, mais à un moment donné, donc il y a à partir des conditions de la production, des conditions sociales, c'est évidemment une moyenne pour ça que tant de travail est socialement nécessaire. Bon, donc on revient, ça c'est le quantum de travail ou le temps de travail nécessaire dans une société donnée à la production d'un article, c'est lui qui détermine la quantité de valeur. Alors cette autre idée, cette quantité de valeur, c'est le dernier paragraphe, le grand paragraphe de la page 3. Cette quantité de valeur Si le temps de travail nécessaire à la production reste constant, elle ne varie pas, c'est une moyenne. Par contre, si à cause des progrès de la force productive du travail, de la productivité du travail, si vous voulez, le développement de la science, des technologies, etc. Si ça varie, c'est-à-dire si ça modifie, si ça augmente la force productive du travail, ça veut dire si on produit plus de marchandises en moins de temps, à ce moment-là, ça va faire baisser le temps de travail socialement nécessaire, et donc ça va faire baisser la valeur. Donc c'est ça qui est un peu complexe à comprendre. Donc phrase de la fin de la page 3. En général, plus est grande la force productive du travail, plus est court le temps nécessaire à la production d'un article, et plus est petite la masse de travail cristallisée en lui, plus est petite sa valeur. Vous voyez ça? Plus la productivité du travail est élevée, ce qu'on appelle la force productive du travail, plus le temps nécessaire à sa production donc baisse, plus est petite donc la masse de travail cristallisée en lui, il faut moins de temps pour fabriquer une marchandise, et donc plus petite est la valeur. C'est pour ça qu'il faut bannir, c'est ça qui est compliqué avec Marx, mais comme avec d'autres auteurs d'ailleurs, il faut bannir la vulgate, c'est-à-dire quand on entend que ça baisse la valeur, on ne comprend pas très bien, quoi. Alors qu'en réalité, c'est un signe du progrès, quoi, de la force productive du travail. Et inversement, c'est l'inverse, plus la force productive du travail est basse, plus le temps nécessaire à sa production est élevé, et plus grande est sa valeur. Donc la quantité de valeur d'une marchandise, c'est la dernière ligne, la quantité de valeur d'une marchandise varie donc en raison directe du quantum, c'est-à-dire de la quantité de travail nécessaire, et en raison inverse de la force productive du travail. Si la force productive du travail s'élève, ça fait baisser la valeur de la marchandise parce qu'il faut moins de temps de travail pour la fabriquer. Voilà, donc là il récapitule, nous connaissons maintenant la substance de la valeur, page 4, c'est le travail, nous connaissons la mesure de sa quantité, c'est la durée de travail. Voilà, donc là, avant le grand 2, là, il y a une idée là. Alors, il cite le cas de choses qui sont une valeur d'usage sans être une valeur. Encore que tout ça, ça a évolué énormément d'ailleurs. Mais bon, par exemple, le sol vierge, les prairies naturelles. Et à l'inverse, une chose peut être utile et produit du travail humain sans être marchandise. Pour produire ce qu'on appelle des marchandises, il doit non seulement produire des valeurs d'usage, mais des valeurs d'usage pour d'autres. Des valeurs d'usage social. Voilà, inversement, aucun objet ne peut être une valeur s'il n'est une chose utile. Et donc, si, comme on a vu tout à l'heure, s'il n'y a pas échange, s'il n'y a pas d'utilité pour d'autres, le travail qui a été effectué sous des formes privées, en fait, a été effectué en vain, parce qu'il ne peut pas être vérifié comme un maillon du travail social. Alors ensuite, je regarde là, ça. Alors maintenant, donc, on l'a vu, mais je m'appuyais d'ailleurs là-dessus, mais c'est mieux si on voit bien les textes eux-mêmes. Le double caractère du travail présenté par la marchandise. Alors, la marchandise nous est apparue au premier abord, et après il va évoluer dans son explication, elle nous est apparue comme quelque chose à double face. On dirait une contradiction. Entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et après, il va faire apparaître que c'est valeur tout court. Ensuite, nous avons vu que tous les caractères qui distinguent le travail productif de valeur d'usage disparaissent dès qu'ils s'expriment dans la valeur proprement dite. Et donc, j'ai le premier mis en relief ce double caractère du travail représenté dans la marchandise, entre valeur d'usage et valeur. Donc, il entre un petit peu dans le dans l'analyse. Avec l'échange entre un habit et 10 mètres de toile. Alors, l'habit, c'est une valeur d'usage qui satisfait un besoin particulier. Il provient d'un genre particulier d'activité productive et donc ce qu'on appelle le travail qui se cristallise dans la valeur d'usage de ce produit, on l'appelle travail utile. On l'appelle aussi travail concret. Donc, le travail du tailleur se distingue de celui du tisserand. Donc, si c'est des objets qui sont de valeur d'usage de qualité diverse, donc, et ça renvoie bien au travail concret, et ça permet de fabriquer des valeurs d'usage particulières qui sont toutes différentes les unes des autres. En même temps, à l'ensemble des valeurs d'usage de toutes sortes correspond un ensemble de travaux utiles également variés, et donc ça va aboutir à ce qu'on appelle une division sociale du travail. On va retrouver cette idée que je vous avais présentée tout à l'heure. Des produits, il y a des travaux privés qui sont indépendants les uns des autres, mais en même temps qui ont besoin avec qui sont un maillon de ce qu'on appelle le travail social. Et chacun a besoin de l'échange. On doit échanger, tout le monde ne peut pas tout produire, enfin on l'a vu tout à l'heure, et donc on dit que c'est des marchandises qui se présentent comme réciproquement échangeables. Donc la valeur d'usage de chaque marchandise recèle, comme on a dit, un travail utile spécial ou une activité productive qui répond à un but particulier. Donc voilà ce que c'est que... On va se lister tout à l'heure une liste de concepts à bien retenir. Donc la définition ici de la valeur d'usage d'une marchandise et qui renvoie à un travail utile spécial, qu'il appelle ailleurs un travail concret qui répond à un but particulier. Donc des valeurs d'usage ne peuvent se faire face comme marchandises que si elles contiennent des travaux utiles de qualité différente. Celui qui est tisserand, il a besoin de travail du potier et inversement. Et il faut donc que ce soit des travaux utiles de qualité différente. Et donc on revient à cette idée que dans une production marchande, dans une société où tout producteur doit être marchand, donc les travaux particuliers, utiles, s'effectuent indépendamment les uns des autres dans le cadre d'unités de production séparées. Et également, on a vu qu'il y a la propriété privée des produits et des moyens de production. Donc on va retrouver à la fois l'indépendance qu'on a vu tout à l'heure, à la fois l'indépendance des producteurs, séparation, mais en même temps leur dépendance, parce que comme ils sont spécialisés, ils ont besoin des produits des autres. Donc ça, c'est ce que tout ça, ça renvoie à la valeur d'usage, ça renvoie au travail utile spécial ou au travail concret, ça renvoie aux producteurs qui sont indépendants les uns des autres. Mais maintenant, et donc ça, ça renvoie, ça permet effectivement d'avancer la notion de valeur d'usage et de l'étudier de façon sociale. Pas comme font les néoclassiques, qu'on verra plus tard, qui pour eux c'est un truc subjectif, quoi, la valeur d'usage, voilà, c'est subjectif. Ils n'étudient pas vraiment finalement. Donc Marx étudie beaucoup plus à fond la valeur d'usage, contrairement à ce que disent beaucoup. Mais maintenant, une fois qu'on a vu, la valeur d'usage, on a vu le travail concret, utile, spécial, indépendant les uns des autres, maintenant ce qui est important, c'est de revenir à la valeur. Et donc maintenant, on veut étudier cette substance de la valeur, ce quelque chose de commun qui permet l'échange. Alors, qu'est-ce qui permet donc de dire qu'il y a un rapport d'équivalence, un rapport quantitatif entre un habit et la toile? Ici, un habit vaut deux fois la toile. Qu'est-ce qui nous permet d'échanger l'habit et la toile? Alors, en tant que valeur, c'est quelque chose de commun là qui permet l'échange. L'habit et la toile sont des choses de même substance. Ils sont des expressions objectives d'un travail identique. Donc c'est la force humaine du travail. C'est ça qui est contenu dans la valeur. Donc si on enlève, comme tu dis, abstraction faite de son caractère utile, si on enlève toutes les différences, si on enlève les valeurs d'usage différentes, si on ne s'occupe plus, si on les met de côté, à ce moment-là, on s'aperçoit que toute activité productive est une dépense de force humaine. Alors c'est au sens large, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le cerveau, les muscles, les nerfs, la main de l'homme, donc du travail humain. Et donc, la valeur des marchandises, c'est la dernière ligne, représente purement et simplement le travail de l'homme, une dépense de force humaine en général. Donc après, il donne la définition. C'est la page 6, une dépense de la force simple que tout homme ordinaire sans développement spécial possède dans l'organisme de son corps. Et donc ça change selon les pays, selon les époques, mais il est toujours déterminé dans une société donnée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail simple. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le travail complexe, qualifié, travail qualifié, qui est une puissance du travail simple. C'est le travail simple multiplié, de sorte qu'une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple. Alors ensuite, là, donc il y a des petites phrases comme ça, qui sont importantes à retenir pour bien maîtriser cette théorie de la marchandise. Si donc, c'est le troisième paragraphe avant la fin. Si donc, quant à la valeur d'usage, le travail contenu dans la marchandise ne vaut que qualitativement, on expliquera un peu mieux après, par rapport à la grandeur de la valeur, il ne compte que quantitativement. Alors oui, valeur d'usage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, travail utile spécial, toutes les marchandises de qualité différente, travail privé, donc toutes les valeurs d'usage sont différentes, mais au contraire, quand on s'intéresse à la grandeur de la valeur, là on ne s'intéresse plus qu'à la quantité de travail qui est contenue dans la marchandise. Dans un cas, le premier, il s'agit de savoir comment le travail se fait et ce qu'il produit, donc du tisserand, le travail du tisserand, du forgeron, la toile particulière, l'habit spécial, donc les unités de production séparées, la séparation des producteurs, etc. Mais dans le cas de la valeur, ce qui nous intéresse, c'est combien de temps il dure, et là on ne s'intéresse pas aux différences. Donc des marchandises qui sont donc qui s'échangent dans une certaine proportion, elles sont de valeur égale et donc elles reflètent le temps de travail qui est contenu pour fabriquer ces marchandises. Voilà, donc ensuite on va expliquer un peu ce que j'ai vu tout à l'heure. Une quantité plus considérable, c'est la fin de la page 6, une quantité plus considérable de valeur d'usage forme évidemment une plus grande richesse matérielle. Cependant, une masse croissante de la richesse matérielle peut correspondre à un décroissement simultané de sa valeur. Et ce mouvement contradictoire provient du double caractère du travail, donc de ce qu'on appelle la force productive du travail. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le changement dans la productivité du travail fait diminuer la valeur. Donc, on a à la fois plus de valeur d'usage, mais on a une valeur qui va diminuer lorsque le temps de travail va être plus court en raison de la productivité du travail. On raccourcit le temps total de travail nécessaire à sa production. Voilà. Donc, on retrouve bien cette idée, c'est non pas de dire deux sortes de travail, hein, c'est pas parce qu'il y a deux sortes de travail, mais le travail qui est opposé à lui-même. C'est la contradiction, c'est toujours cette idée de contradiction interne. Valeur d'usage, valeur. Travail utile spécial, travail abstrait. Voilà. Donc là, ce qu'on a essayé donc de voir dans ce premier chapitre, c'est évidemment sans arrêt les contradictions à l'œuvre, à la fois donc la production marchande, quand on dit la production marchande, elle est à la fois source de progrès, mais aussi source de crise, et que donc ça va se développer avec la production marchande capitaliste, dont on verra qu'il y a à la fois des traits communs avec la production marchande, mais qu'il y a une rupture, et notamment cette rupture, c'est le rôle de la force de travail. Voilà, maintenant, c'est assez dur, hein, mais maintenant à vous. Je vais prendre un peu de notes sur vos questions, si ça me... Mais même, vous pouvez, je veux dire, c'est pas grave s'il y a des choses que vous comprenez pas, c'est pas grave s'il y a des choses que vous n'aimez pas, et donc tout le monde, c'est bien, c'est le moment où... Voir en quoi ça peut nous être utile, pour comprendre la société d'aujourd'hui et pour comprendre précisément tous ceux qui mettent l'accent sur le seul marché.
J'ai une question sur le travail qualifié, le travail complexe. Pourquoi donc le travail complexe représente une quantité de travail plus importante, donc à temps égal, on va dire, que le travail simple. Donc finalement, et donc après, donc, on traduit le travail complexe en travail simple. Moi, je trouve ça assez inéquitable, en fait. Pourquoi les hommes qui font un travail complexe devraient, pour obtenir la même valeur, travailler moins longtemps que les hommes qui font un travail simple? Pour moi, justement, la quantité de travail qui est dans un objet, on va dire, donc qui constitue sa valeur, permet finalement de rendre les choses assez justes, on va dire. Selon ses besoins, on va échanger les quantités de travail à peu près égales. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui fournit un travail complexe, donc qui a la capacité de fournir un travail complexe, son travail vaut plus que quelqu'un qui fournit un travail simple. Je trouve ça assez injuste.
Oui, non, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est à l'échelle sociale. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, vous, votre travail, il est beaucoup plus intelligent, donc il doit être mieux rémunéré, etc. C'est à l'échelle sociale. C'est-à-dire, pour parler de travail complexe, en fait, il faut revenir à révolution scientifique et technique, aujourd'hui révolution informationnelle, le fait qu'avec les moyens techniques, avec les progrès de la science, de la technologie, y compris les machines elles-mêmes, elles recèlent, parce qu'on dit souvent la machine elle remplace l'homme, mais en réalité les machines elles-mêmes elles recèlent un travail qui est cristallisé en amont, qui est considérable, qui est du travail humain qui est considérable. Par exemple, si on prend l'informatique aujourd'hui, il y a des gens qui disent vous pouvez remplacer, il n'y a plus besoin d'hommes, il n'y a plus besoin de travail humain. Mais en réalité, c'est archi faux, parce que pour arriver à fabriquer tous ces composants, donc ces ordinateurs, etc., il a fallu un travail en amont complexe, effectivement considérable. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que le niveau d'éducation et de formation s'élève de façon massive, hein, si on reprend avant, si on étudiait au 19e, l'accès à l'école n'était pas du tout aussi développé, on excluait les jeunes filles, on excluait assez largement les enfants de la campagne qui devaient travailler, et donc le niveau d'études était extrêmement limité. Là, avec les progrès techniques, donc il y a un appel énorme de travail qualifié, de force de travail formée, et à partir de là, pour toute la société d'ailleurs, hein, c'est pas simplement pour quelques élites, pour toute la société, peut-être qu'on met moins de temps pour fabriquer les marchandises, mais la force de travail en elle-même, elle est beaucoup plus qualifiée et sa valeur s'élève, au sens où c'est pas simplement, même s'il n'y a pas de déshonneur, c'est pas simplement transporter des colis très très lourds, mais que c'est un travail lui-même qui est beaucoup plus qualifié et qui, pour l'ensemble de la société, et qui implique évidemment, qui a une double tendance. On verra quand on va étudier la semaine prochaine la valeur de la force de travail, il y a une double tendance. Une première tendance qui consiste à essayer de peser, d'économiser sur les salaires, parce que comme on met moins de temps, licenciement, et chômage, etc. Mais une deuxième tendance, avec un appel énorme, un besoin énorme de force de travail qualifiée, qui là au contraire pousse à l'augmentation de la valeur de la force de travail. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment qu'il y a une force qualifiée du travail qui est en fait beaucoup plus grande aujourd'hui et qui fait qu'effectivement les tâches les tâches effectuées sont beaucoup plus complexes, appellent un travail de plus en plus complexe, et pas seulement pour quelques individus, hein, pour l'ensemble de la société. Il faut énormément de travail cristallisé en amont. C'est plus du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que les luttes, par exemple, si on prend le long du 19e, il y a des grandes luttes, et aujourd'hui, il y a des grandes luttes pour imposer, par exemple, de diminuer la journée de travail, pour que justement on puisse reconstituer sa force de travail. Et des grandes luttes aussi qui font que, comme les entrepreneurs ont besoin de plus en plus de forces de travail qualifiées, sont pour une part obligés, il y a une double tendance. Pour une part, ils essaient de les jeter, mais aussi pour une part, ils sont obligés de tenir compte de l'élévation des qualifications. Donc c'est ça, travail complexe. Enfin, je ne sais pas si je réponds à tout, mais je pense qu'on pourra mieux approfondir quand on va faire la force de travail la semaine prochaine. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu, cette idée de travail complexe, qui est donc un multiple du travail simple. Autre point. Et donc évidemment, en étudiant ça, parce que c'est vrai qu'il y a à la fois la nécessité d'étudier les textes fondamentaux, mais il y a aussi la nécessité d'avoir d'autres outils pour comprendre, donc en développant, mais aussi en élaborant pour comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire notamment pour comprendre la révolution informationnelle, parce qu'on a besoin en gros des outils marxistes, mais au fond pour en élaborer d'autres permettant aujourd'hui de comprendre le capitalisme aujourd'hui et de lutter, de dépasser. Et donc il y a des choses évidemment que Marx, il était un génie, mais il n'a pas tout, forcément, il n'a pas étudié la sécu, qu'il n'y en avait pas. Donc c'est à nous aussi de forger les outils, en utilisant la méthode et les concepts, de forger les outils pour aujourd'hui. Pas seulement des questions, hein, des choses à dire, pas seulement des questions.
On a l'impression que justement, en fait, ça, il y a une tendance très nette à vouloir occulter dans le monde capitaliste, en fait, ce qui se transforme, en fait, c'est-à-dire que ce que tu disais d'un travail complexe, de plus en plus complexe, on le voit effectivement, moi, qu'on vit dans les bibliothèques, on dit l'utilisation de l'informatique va permettre de réduire des tâches. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des tâches qui vont être réduites, mais il y a la création d'autres tâches, en fait. Des choses, effectivement, on ne va plus faire comme on faisait il y a 20 ans, mais on va le faire avant, par exemple, justement, quand on va utiliser un logiciel, ben, il va falloir se poser des questions sur savoir comment on va l'utiliser, comment on va le paramétrer, comment, etc. Donc il y a tout un travail, un déplacement du travail.
Moi j'ai une clé, mais il y en a d'autres qui l'ont, la clé. Et après, avec ça, qu'est-ce que je fais là?
Une lettre sur la table, je m'en occupe sur la
table. La semaine prochaine.
On a l'impression finalement c'est une volonté d'occulter, tout aspect des choses. En fait, c'est un déplacement, mais il va avec une plus grande qualification, une nécessité de plus grande qualification, mais il y a un déplacement des tâches, mais il y a bien des tâches, elles existent. Il y a encore des tâches, enfin, c'est pas... Moi, globalement, pour moi, je ne vois pas que le travail diminue, au contraire. Il se transforme, mais il ne diminue pas globalement. Une course en avant pour générer d'autres choses, on va voir générer d'autres services, s'occuper d'autres choses, etc. Du coup, c'est là qu'on va se retrouver avec un moment donné où on va dire, mais c'est bien gentil, on a tous les outils, mais il faudrait encore plus de personnes, de travailleurs pour offrir ces services-là, etc. Et on a l'impression qu'il y a vraiment cette volonté d'occulter cet aspect des choses. Et moi, j'avais entendu il y a 20 ans déjà, attention, l'informatisation, c'est très bien pour certains aspects, mais attention, on va prendre le prétexte de ça pour réduire le nombre d'agents. qui est en vérité faux, parce que on a besoin de autant de personnes qu'avant, mais voire certainement plus.
Donc là, ça me semble effectivement extrêmement intéressant, parce que d'un côté, je vois aussi dans les textes actuels, par exemple, aussi bien le rapport Attali que le projet de loi sur la mobilité dans la fonction publique. Donc il y a l'idée que, voilà, avec l'informatique, même aussi à l'école, puisqu'on va évaluer les enfants, on fera moins d'histoire, mais on fera plus d'informatique. Et donc il y a cette idée qu'on va énormément simplifier les tâches, qu'on va, comme tu as dit, réduire. Il y a même des salariés eux-mêmes qui disent, c'est par exemple le mouvement contre les machines, par exemple, qui disent qu'on va, avec ça, on n'existera plus, on n'aura plus de travail. Alors il y a une double tendance. À la fois, ils s'en servent. Effectivement, ils s'en servent pour réduire les licenciements dans la fonction publique, la réduction des emplois. Et en même temps, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, en même temps, il y a un appel énorme de tâches nouvelles, un appel énorme aussi de tâches plus qualifiées, de la formation à toutes les étapes, ou ce déplacement des tâches, de nouvelles tâches et de nouveaux emplois. Enfin, en fait, ça, normalement, ça devrait même être exactement le contraire, quoi. Avec de nouveaux emplois qualifiés, un travail en fait qui pourrait être beaucoup plus intéressant au lieu d'être morcelé. Et donc il y a un appel énorme. D'ailleurs, on voit dans beaucoup de pays actuellement, il manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est le cas par exemple en Allemagne. Donc il y a un besoin énorme de, face à ce déplacement des tâches, face à cette nouvelle tâche, il y a au contraire un besoin énorme de formation, d'une autre organisation du travail qui, au lieu de se traduire par virer les gens et diminuer les emplois, au contraire, est un appel. Et ça devrait être un facteur de mobilisation très, très fort, y compris pour un travail intéressant. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose à mettre en avant dans le débat actuel.
Complément, parce que j'ai étudié en fait le système de production dans mon école, donc c'est même pour le niveau des usines, on voit qu'il y a un retour en arrière sur l'automatisation. Enfin, il y a des usines qui ont été très automatisées à des époques où on y croyait beaucoup dans les années 80, et maintenant on se rend compte, pour des raisons de qualité, de fiabilité, etc., qu'il fallait beaucoup plus de monde pour régler les machines et les entretenir qu'avant. Donc on a remis des ouvriers pour faire des tâches qui étaient automatisées. Mais globalement aussi, pour des questions de qualité, fiabilité, tout ça, il faut des ouvriers beaucoup plus qualifiés qu'avant, même pour des tâches qu'on pensait simples. Parce que si on compare avec des pays comme la Chine, par exemple, on a les mêmes usines avec les mêmes machines, et on se rend compte que le taux de défaut à la sortie de l'usine est 10 fois plus élevé qu'en France, simplement parce qu'il n'y a pas de formation, ils n'ont même pas jamais été à l'école. Donc c'est quelque chose d'important même pour des tâches qui paraissent simples. Et sinon, après, sur le fait qu'il y a des problèmes de chômage, effectivement, qui sont dus au fait qu'il y a moins de monde globalement dans les usines et plus de monde dans les bureaux d'études, parce qu'on est plus dans les machines que ce qu'on a besoin comme force de travail. Et par contre, c'est juste un déplacement. Le problème, c'est de former les gens qui font les bonnes tâches. Après, quand ça évolue vite.
Le problème en France, c'est pas la formation, c'est la rentabilité avant tout.
Avec le problème, c'est vraiment du court terme, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on voudrait maintenant la société dire que les gens, ils sont, on va faire en sorte que les enfants, ils ont aidé un métier, une tâche en particulier, et puis, point à l'ennemi, ils soient tout de suite opérationnels et tout de suite utilisables à telle tâche. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que, au contraire, quand on a la chance d'avoir une formation, avec une méthode de travail, on a effectivement globalement la possibilité de réfléchir, de former à une méthodologie, etc. tout le monde devrait pouvoir en tirer profit, et la personne le travail lui-même en général. Alors qu'on a vraiment, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tendance actuellement à dire, à refocaliser les gens, oui mais il faut que ce soit, vous avez choisi une formation, mais attendez, il faut que ce soit utilisé tout de suite. Avant, vous voulez une formation, mais à quoi va-t-elle vous servir? Peut-être qu'elle ne va pas me servir là, tout de suite maintenant, mais peut-être que je vais l'utiliser, peut-être que ça va vous ouvrir les horizons, peut-être que je vais l'utiliser à autre chose. Enfin, ce n'est pas seulement une vision utilitariste des choses. Mais pour moi, en plus, il y a une contradiction avec ce que offre l'école. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que globalement, enfin, indépendamment du fait qu'il y ait des enfants aidés ou pas, par un contexte qui fait qu'ils vont avoir de l'aide tout simplement matérielle pour faire des études, on va dire ça comme ça, mais il y a aussi des enfants qui ne sont pas intéressés par, à un certain moment donné, par en gros le système scolaire tel qu'on présente actuellement, mais en même temps, qui ne vont pas être, enfin, qui ne vont pas avoir la possibilité de revenir éventuellement quand ils vont faire, pour se poser, ah oui tiens, en fait là j'ai fait 3-4 ans de travail concret, maintenant je voudrais avoir un apport théorique et puis voir un petit peu, avoir comme des, en gros, enfin des suites comme on lit les autres. Et il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, la troisième, enfin je dis en gros, on dit soit vous êtes bon pour les études, soit ben non, vous sortez du système scolaire, soit après la troisième, soit après le bac, peu importe, mais je veux dire, ça revient un peu au même, alors que quand, le jour où ils vont dire, bah tiens, j'aimerais bien avoir la possibilité de reprendre quelque chose, il n'y a pas, la société offre pas. Comme si, bon, à l'école partir 25 ans, c'est un peu plus. En gros, on est bon à mettre en rencard. Indépendamment du fait qu'on peut avoir une vie personnelle ou autre, c'est autre chose. Je veux dire autre chose que ça. C'est plus. C'est, après, c'est les, ceux qui veulent vraiment faire ça, c'est ceux qui ont une chance ou du temps ou un contexte. Enfin, c'est une volonté tellement forte qu'ils arrivent à reprendre.
Moi, par rapport à ce que tu dis, je partage très très largement. Donc effectivement, il y a cette idée que les savoirs sont beaucoup plus complexes, que les métiers eux-mêmes sont beaucoup plus complexes, que les tâches et qu'effectivement il y a aussi un immense appel à, et on pourrait redonner l'exemple de l'école, à une formation générale de haut niveau qui permettent de rebondir puisque les métiers en plus ils évoluent, qu'effectivement on peut à un moment donné, enfin encore qu'il faudrait réfléchir et s'interroger sur pourquoi il y a des enfants qui sont en échec et comment les en sortir, parce que là il y a aussi la tendance à dire celui-là il est en échec, il va aller voilà, il est en échec, il peut pas, faut lire, écrire, compter, et voilà. Donc ça c'est effectivement, donc il y a, mais cette idée là de, effectivement de je trouve très très intéressant ça, de savoir plus complexe, de métier plus complexe, de tâches, enfin c'est intéressant aussi cette idée que contrairement aux périodes de taylorisme excessif et d'automation, que maintenant on comprend qu'il faut au contraire une conception beaucoup plus large des tâches, et que le côté, on voit mieux le côté division sociale du travail, enfin qu'on n'est pas... Et justement, ça pose la question de la formation, ça pose la question de la formation à tous les niveaux, c'est-à-dire... Et donc c'est très important. Les enfants, effectivement, on leur demande à ma petite fille qui est en cinquième, et il fallait qu'elle réponde, enfin c'est pas en France mais c'est pareil, il fallait qu'elle réponde ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire il fallait vraiment qu'elle mette je sais pas quoi, assistante sociale, ou elle veut être coiffeuse, ou elle veut être... Donc il faut savoir exactement ce qu'on veut être, et donc très tôt, c'est-à-dire à 12 ans, et après ça, en fonction de ça, on choisit les filières. Alors ça, comme tu disais, vous n'allez pas faire philo. Oh, vous n'allez pas faire philo, ça va vous mener à quoi de faire philo? Vous n'allez pas faire histoire, vous voulez être prof? Voilà, je ne vais pas être prof. Et donc, avec le, alors que, effectivement, il y a un besoin, même s'il faut s'interroger aussi de l'échec, encore une fois, des enfants, notamment de culture populaire. Et donc, je retiens bien cette idée-là de savoir complexe et aussi de mobilité, de progrès, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans une tâche toute la vie. Voilà. D'autres interventions? Vas-y.
Une des originalités de Marx là, c'est de dégager en fait la valeur par opposition en fait à d'autres théoriciens qui eux en fait se focalisent sur la valeur d'échange. Enfin, c'est une question, mais en fonction de la réponse, du coup si tel est le cas, alors ça veut dire qu'il se trompe. Alors la valeur, est-ce que ça permet d'aborder des problèmes qui se posent aujourd'hui, lesquels?
Oui, c'est la question du marché, c'est-à-dire il y a des auteurs pour qui c'est sur le marché qu'il faut aller, il n'y a que le marché, et donc il y a la loi d'offre à la demande et donc la valeur d'échange sur le marché. Et donc ça c'est les auteurs néoclassiques, et il y a les auteurs, bon il n'y a pas que Marx, il y a les auteurs classiques aussi, qui considèrent que même s'il faut étudier le marché, c'est le cas ici, la marchandise elle-même est un rapport social, et que c'est dans la production qu'il faut aller pour étudier la marchandise, et que donc à partir de là, les théoriciens il y a plusieurs théoriciens qui s'intéressent à la valeur d'échange. Il y a les auteurs néoclassiques qu'on étudiera plus tard, qui encore une fois pour qui tout se passe sur le marché. Il y a les auteurs classiques avant Marx, c'est-à-dire Smith et Ricardo, qui s'intéressent à la valeur d'échange, mais qui considèrent que ce qui fonde la valeur d'échange, c'est le travail. Donc c'est des théoriciens de la valeur travail, alors que les néoclassiques, c'est des théoriciens de la valeur utilité. Et donc l'intérêt donc des auteurs classiques, c'est d'avoir fondé la théorie de la marchandise fondée sur la valeur d'échange elle-même liée au travail, mais en même temps leur limite par rapport à Marx, donc comment Marx, hein, faudra le revoir, mais comment Marx pour moi les dépasse, c'est que il n'étudie pas que la valeur travail, il étudie la marchandise et la contradiction de la marchandise, comme je l'ai vu au début, entre la valeur d'usage et la valeur. Voilà. Et donc, on ne peut pas résumer Marx à une théorie de la valeur travail. Même si c'est extrêmement important. Hein, même s'il y a cette idée que travail qui fonde la richesse, rapports sociaux dans la production qui sont décisifs pour comprendre la marchandise. Donc, c'est un peu comme ça. Enfin, il y a une opposition donc entre les auteurs pour qui c'est la production qui est importante et c'est dans la production qu'il faut aller pour étudier, y compris la valeur d'échange, et les auteurs qui considèrent, comme les auteurs libéraux en fait, néoclassiques, que c'est sur le marché qu'il faut aller pour étudier la valeur d'échange, et que tout est lié à une conception de l'utilité. Donc, pour Marx, l'intérêt c'est d'articuler, enfin ce qui est intéressant chez Marx, c'est d'articuler cette théorie de la, il y a valeur d'usage et valeur, et il y a marché, marchandise et production. Donc, et en quoi ça peut nous servir pour aujourd'hui? Ben, ça peut nous servir à un moment où tout se passe sur le marché, où il n'y a que le marché, et on considère que le marché est indépassable. Et que donc, en fait, moi, qui me revendique comme marxiste, je considère que oui, il faut étudier la marchandise et le marché, mais que c'est les rapports sociaux de production qui sont importants, qui sont décisifs, Et donc la semaine prochaine, on verra justement ce fameux rapport social de production qui est l'exploitation et la production de la plus-value. Voilà, donc en gros...
J'avais une remarque, une demande d'éclaircissement par rapport à un passage où on évoque les contradictions, enfin les vertus et les inconvénients de l'échange en fait.
Mm-hmm.
Et bon, le risque par exemple qu'il y ait plus de valeur d'usage qui soit produite, donc que la valeur de chaque marchandise va diminuer, donc jusque-là je saisis à peu près un chemin logique. Mais après, il a été ajouté que le temps de travail nécessaire donc pouvait diminuer, enfin allait diminuer. Donc j'ai pas trop compris le lien là, parce que c'est pas parce qu'on produit plus de valeur d'usage, enfin il me semble pas nécessaire d'après ce que j'ai compris, que plus on produit de valeur d'usage, mécaniquement le temps de travail nécessaire allait diminuer. Puisqu'en fait on peut produire plus de valeur d'usage en... en recourant à plus de force de travail, ça ne changera pas forcément pour un bien particulier le temps de travail nécessaire. Donc, enfin, donc ça, je n'ai pas trop compris dans le cheminement logique. Et après, bon, j'ai une remarque plus générale, mais peut-être que ça sera l'objet des interventions, enfin des séances prochaines. C'est que ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans tout ça, c'est quand même la question, quelque part, de. De l'écart entre finalement l'interdépendance liée au fonctionnement de l'économie dans le cadre décrit, et qui est encore le nôtre, il me semble, en tout cas, et finalement la logique de production individuelle, la société qu'il y a quelque part, et le fait qu'il y a une abstraction totale de la réponse aux besoins sociaux et d'un fonctionnement de l'économie finalement destiné à satisfaire les besoins. Disons que c'est passé à la priorité. Or, finalement, vu qu'il y a une solidarité de fait dans le fonctionnement de l'économie, ça devrait finalement satisfaire ces besoins de solidarité, la base finalement du fonctionnement. En fait, consciemment, on devrait avoir cette idée. Et donc l'échange finalement c'est apprendre comme le moyen dans le système économique de régler cette contradiction. Mais bon, ça pose la question après de qu'est-ce que, vu les limites de l'échange, là où qui va avec et les risques de crise et tout ça, ça pose la question de quoi la place de l'échange pour dépasser ces contradictions-là. Donc bon, c'est un peu ça les questions politiques qui sont posées, parce que. C'est ça, finalement, sur quoi on achoppe à l'issue de cette question. Donc, voilà, peut-être ça sera l'objet de la suite, dans ce cas-là.
Non, mais là, je trouve que...
C'est pas la peine d'y répondre ce soir.
Non, mais de toute façon...
C'est pas très clair.
Ah, si, parfaitement. C'est-à-dire que, vraiment, je trouve que c'était même magistral. Donc, la dernière partie, là, ça résume très, très bien cette contradiction, qui est le même facteur de crise entre cette indépendance des producteurs qui, dans le cadre de la propriété privée, dans le cadre des unités de production séparées, mais qui ne s'occupent pas des besoins, et au contraire, l'exigence d'une interdépendance au niveau social. Et c'est très, très intéressant. Enfin, je trouve que la question de la fin était au contraire un. Enfin, que c'était, pour moi, je ne la prends pas comme une question, je la prends comme vraiment. La compréhension complète de ce que pouvait apporter cette analyse.
Pour moi, ça reste une question d'actualité.
Oui, absolument. En plus, une question d'actualité, effectivement, d'une contradiction entre cette logique qui est déplacée encore plus de la production. Parce que quand on va voir le mode de production capitaliste, c'est pas seulement une production marchande, mais une production marchande capitaliste, c'est-à-dire une production pour le profit, où là, ce risque de discordance entre ce qu'on produit pour le marché et les besoins est encore beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent, c'est ce qui donne naissance aux crises.
La question, c'est est-ce qu'il y a autre chose que le marché pour répondre à la
voilà.
De Margaret Thatcher, c'est-à-dire qu'il n'y a que des sociétés, il n'y a pas de sociétés, il n'y a que des individus.
Voilà, la question, c'est la question de marché individualiste. Est-ce qu'il peut y avoir un marché, je dirais, régulé? Est-ce que ce qui est important... c'est pas d'abord les rapports sociaux. Donc effectivement d'arriver à des formes de coopération et non pas des formes de séparation. Et donc il y a tout ce débat, notamment avec les socialistes.
C'est la question de l'appropriation collective.
Et l'appropriation, et ça, voilà. Et donc c'est ça. Donc, donc là, ça me semble effectivement la question clé de toute économie politique qui veut dépasser le marché et le capitalisme. Hein, ça me semble vraiment. Donc là, moi, je vois pas de désaccord. Je vois au contraire. Par contre, sur la question temps de travail socialement nécessaire, là, c'est-à-dire cette valeur qui, en fait, pourquoi la valeur baisse? Pourquoi la valeur peut tendre à baisser? En raison des progrès de la force productive du travail. C'est effectivement pas parce qu'on produit plus de valeur d'usage que la valeur baisse, même si on multiplie les valeurs d'usage et on les multiplie par un accroissement de la productivité du travail, c'est-à-dire par les machines, enfin on verra ça ensuite dans le dernier chapitre de Marx. En réalité, c'est ça, c'est parce que on accroît la force productive du travail à partir du machinisme, c'est-à-dire on produit en moins de temps, en fait on produit en moins de temps plus de valeur d'usage, et donc à ce moment-là il faut moins de temps pour fabriquer les marchandises, et donc ça fait baisser la valeur des marchandises, puisque la mesure de la valeur des marchandises c'est en fonction du temps de travail socialement nécessaire à leur production. Donc s'il faut moins de temps pour les fabriquer, le temps de travail socialement nécessaire à leur production baisse, et donc la valeur des marchandises baisse. Donc c'est uniquement avec, ça ne peut s'expliquer que par les progrès de la force productive du travail. Mais du coup, le décrochage, les risques de décrochage entre la valeur d'usage et la valeur se trouvent démultipliés, d'où les crises.